musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
C'est au son du reggae que nous allons tapisser ces musiques du monde avec le groupe burkinabé Djakassa qui viendra dans la seconde partie de l'émission faire deux titres dans la session live et Francis Dordor qui publie Bob Marley, le dernier prophète. Plus de 40 ans que l'écrivain et journaliste côtoie Bob Marley, c'est donc le récit d'une vie bien sûr, mais c'est aussi ce qu'elle raconte de la souffrance des plus démunis et de l'espérance d'une vie meilleure. La musique peut rendre les hommes libres, disait le chanteur. Et si c'était vrai ? Bonne chose avec la musique, c'est que quand elle te frappe, tu te sens bien. C'est Bob Marley qui parle et qu'on peut retrouver dans le nouvel ouvrage de Francis Dordor, Bob Marley, le dernier prophète. Vous avez utilisé le mot prophète à quel dessein ?
C'est peut-être la confrontation entre l'essence même de la musique de Bob Marley, de ses textes et la réalité telle qu'elle se propose à nous 40 ans après son, ou presque 40 ans après sa disparition, qui m'a incité à utiliser ce terme, qui n'est pas un terme évidemment simple, dans la mesure où il y a des développements d'ordre religieux qui apparaissent à tout le monde évidemment, et juste en prenant cette chanson Survival dans laquelle il parle des inégalités, des menaces de tous ordres, qu'elles soient nucléaires ou écologiques. Il m'apparaît aujourd'hui quand même qu'on a une forme de preuve par la réalité que ce que chantait Bob Marley à l'époque relevait au moins, sinon de la prophétie, d'un pressentiment très très puissant.
Alors ce titre Survival arrive, enfin ce titre et cet album, après un voyage que Bob Marley a accompli en Éthiopie, donc c'est un voyage initiatique pour lui. L'Éthiopie, pour Bob Marley, pour les amateurs de reggae, pour les Rastafari, ça reste l'Eldorado, ça reste Haïlé Sélassié, ça reste l'homme de l'origine.
Pour les Rastafariens, oui, tout à fait, c'est la terre promise. Bob Marley a fait connaître cette religion qui, à l'origine, est véritablement de l'ordre de la petite secte, je dirais, une sorte d'adaptation d'un christianisme à l'échelle des Caraïbes et qui concerne essentiellement les descendants d'esclaves. Et lui porte cette théologie né dans les années 30, qui s'est développé comme ça de manière tout à fait marginale dans une Jamaïque encore coloniale. Évidemment, avec cette particularité, c'est que c'est une religion qui a mis en avant la personnalité de l'empereur Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, descendant de, je crois que c'est la 125e représentant de la dynastie solomonienne, c'est-à-dire ça remonte au roi Salomon, alors au temps biblique. Voilà, c'est cette identité-là qui va servir de socle à cette religion et aussi être finalement l'horizon que Bob Marley et beaucoup de ses coreligionnaires vont promouvoir d'une certaine manière, avec en fond, quoique pour la réalité c'est autre chose, un hypothétique retour en Afrique et donc en Éthiopie. Ce que certains d'ailleurs vont réaliser. Moi je suis allé à Shashamané, à peu près à 2-3 heures de route d'Addis Abeba, où j'ai rencontré effectivement des familles, des communautés d'exilés, de gens qui venaient soit des États-Unis, soit de la Grenade, soit de la Barbade, soit de la Jamaïque, et qui s'étaient installés là effectivement.
Mais dans la Bible, l'Éthiopie c'est l'Abyssinie, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes qui arrivaient des Caraïbes, notamment Bob Marley, se sont intéressées à cette partie du monde. Et puis bon, Haïlé Sélassié représentait bien, il avait des pages dans le National Geographic, chrétien, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer. Est-ce que, à partir de ce voyage, quand il est rentré, est-ce qu'on peut dire que Bob Marley s'est forgé une identité de panafricaniste? Est-ce qu'à ce moment-là, sa vie s'est plus politisée ou déjà il y avait quelques graines?
C'est une progression dans sa démarche artistique autant que philosophique. Il est clair qu'il vient du ghetto, il vient d'un lieu très précis qui est Trenchtown.
On s'en vante pas d'ailleurs, sauf lui dans une chanson.
Lui il s'en vante, enfin lui il en a fait même une forme de promotion il en a tiré même une fierté qui est devenue, et je crois que c'est ce qui a rendu aussi son message universel, c'est que beaucoup de défavorisés, beaucoup de gens qui vivaient soit dans des favelas, soit dans des ghettos, enfin, quelle que soit la partie du monde, se sont sentis exaltés, reconnu et lavé de cet affront. Oui, il a évidemment une importance décisive de ce point de vue-là. Après, pour son évolution, oui, effectivement, il y a eu des étapes successives. Le fait qu'il devienne une star internationale, le fait qu'il voyage, le fait qu'il soit à la rencontre d'autres personnes, d'autres individus, qu'il fasse des rencontres décisives, l'ont amené à avoir une réflexion beaucoup plus globale, beaucoup plus ouverte sur le reste du monde. Mais d'une certaine manière, ce qu'il rencontrait, que ce soit en Afrique, en Asie, en Océanie, ou en Europe, ou en Amérique du Sud, le confortait dans son idée de cette espèce d'état de guerre larvée à peu près dans tous les pays du monde, entre les possédants et les déshérités. Je crois que c'est ça, son Get Up, Stand Up, toutes ces chansons-là sont motivés et portés par cette idée d'une injustice fondamentale que aujourd'hui on peut difficilement nier au vu de cette richesse accaparée par un nombre très très restreint de personnes. Et à côté de ça, une pauvreté galopante à peu près partout.
L'Afrique le remerciera, en tout cas pour ses prises de position, puisque sur l'album Survival, il y a ce fameux titre Zimbabwe qui fera qu'il sera invité aux cérémonies d'indépendance de Zimbabwe en avril 1980, ce qui n'est pas rien.
C'est-à-dire que cette chanson-là, Zimbabwe, il l'écrit d'ailleurs dans un lieu où que j'ai pu visiter, qui est le campan des 12 Tribes of Israel à Shashamané, donc en Éthiopie. J'ai même rencontré quelqu'un qui a assisté à la composition du titre, puisque en l'occurrence c'était fait lors d'une soirée, d'une veillée autour de Bob avec sa guitare sèche, et qui demandait aux uns et aux autres de compléter des vers qu'il avait amorcés, etc. Donc la chanson s'est faite véritablement en Afrique, en Éthiopie, et dès qu'elle est sortie, elle est devenue un chant de guerre sur le front du Zimbabwe, sur le front de la guerre de libération du Zimbabwe. Les combattants pour la libération du Zimbabwe, pour se défaire du joug colonial, entonnaient ou la jouaient sur leur transistor en permanence. Ce qui fait qu'effectivement, Bob Marley a eu de ce point de vue-là, sur la réalité même de ce conflit, une influence décisive. Et effectivement, en remerciement, il a été accueilli le jour de la cérémonie d'indépendance par les autorités zimbabwéennes. Voilà.
Francis Dordor est notre invité pour nous parler de son livre Bob Marley, le dernier prophète.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Now everywhere is war.
C'était le titre War, cet extrait de l'album Rastaman Vibration, c'est sorti en 76. Alors c'est un titre tout à fait particulier parce qu'il reprend le discours du grand monsieur dont on parlait il y a quelques instants, d'Haïlé Sélassié. Je vous laisse présenter ce titre, Francis Dordor.
C'est son ami et manager pendant un temps des Wailers, Skip Cole, qui à la suite d'un voyage en Éthiopie a découvert effectivement ce discours que l'empereur Haïlé Sélassié a prononcé en 1963 aux Nations Unies. Et il a été extrêmement frappé par la clairvoyance, la lucidité du texte, et quand il l'a présenté à Bob Marley à son retour, Bob en a eu effectivement la même sensation, a été immédiatement inspiré pour faire ce morceau, donc qui reprend avec des paroles qui ont un écho évidemment aujourd'hui un peu glaçant. Tant que la couleur de peau d'un homme n'aura pas plus d'importance que la couleur de ses yeux, il y aura la guerre. Je crois qu'aujourd'hui, avec ces recrudescences de racisme, d'ostracisme, de xénophobie, c'est quand on parle de... Je parlais de prophétie à propos de Bob Marley, mais on peut dire qu'effectivement, il continue à être le commentateur l'un des plus pertinents d'aujourd'hui, quoi, sur les réalités d'aujourd'hui, les réalités socio-économiques et socio-politiques, et voilà.
Votre livre s'appelle Bob Marley, le dernier prophète. C'est vous qui, évidemment, signez la programmation de cette émission. Bob Marley, comment expliquer? Parce que c'est un phénomène. Est-ce qu'on peut parler d'accident ethnomusicologique du XXe siècle? Comment ce type est sorti? Est-ce que parce qu'il avait une pensée? Est-ce que parce qu'il il se raccrochait au continent africain, à l'Éthiopie, à des textes sacrés? Est-ce que parce qu'il y avait aussi la fleur de cannabis? Qu'est-ce qui fait que...
Il y a tout.
Il y a beaucoup de choses pour réunir, c'est vrai.
Ouais, c'est un ensemble de choses. Je pense que c'est à la fois musicalement, c'était totalement novateur quand le reggae est arrivé au début des années 70 et a atteint d'autres rivages que ceux des Caraïbes. Et donc, je crois qu'il y a eu un engouement immédiat. Ça venait après une période où beaucoup d'icônes de la musique populaire anglo-américaine, je pense à Jimi Hendrix, je pense à Janis Joplin, à Jim Morrison, à tous ces gens-là, avaient disparu. Il y avait une sorte de vide qui a été occupé par quelqu'un qui en plus représentait une autre partie du monde. Un monde et une psychologie et un rythme et une réalité qui était encore totalement à découvrir. Et je pense que là, il y a eu un engouement immédiat. Voilà ce qui explique, rationnellement, son avènement et le succès qu'il a rencontré. Après, encore une fois, je pense qu'il y a une profondeur, une forme d'universalité qui est assez désarmante. Je parlais de Trenchtown tout à l'heure, mais beaucoup de gens, en écoutant ses textes et en, finalement en accompagnant aussi cette musique, en suivant le rythme de cette musique qui est assez facile à capter, dans laquelle on rentre assez facilement, ça a évidemment facilité cet unanimisme.
Est-ce que Bob Marley a rencontré Haïlé Sélassié ?
Non, il n'a jamais rencontré Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié a visité la Jamaïque en 1966 pour un voyage d'État. Je crois que j'en parle un petit peu dans le bouquin. Lui, à cette époque-là, pour des raisons purement économiques, a dû s'exiler aux États-Unis chez sa mère, dans le Delaware, à Wilmington, où il va travailler pendant à peu près un an. Alors, il a travaillé sur une chaîne de montage des usines Chrysler de voitures, et il a travaillé dans un laboratoire de chimiste où il était. Il vidait les poubelles, et ensuite il a travaillé dans un hôtel où, pareil, il faisait le ménage. Enfin, voilà, il a eu des tâches que l'on généralement réserve pour les immigrés, quoi.
Et vous avez rencontré Bob Marley ?
Oui, j'ai rencontré Bob.
La première fois. C'était quand ?
La première fois, c'est en 1975. C'est à la suite du concert qu'il donne au Lyceum de Londres, où va être enregistré. D'ailleurs, j'étais dans la salle au moment où est enregistré ce fameux concert Live at the Lyceum, qui va être l'objet de son premier album live. Et le lendemain il y avait une conférence de presse, donc il avait très peu dormi. Il est arrivé pratiquement avec sa tenue de scène, qui était relativement simple puisque c'était une veste et un jean. Voilà, ça s'est passé dans on posait des questions, et moi j'ai eu l'outrecuidance à un moment de poser une question sur le Nigus, parce que c'est comme ça qu'on appelait
Haïlé
Sélassié, l'empereur d'Éthiopie. Et lui a pas compris. D'ailleurs, personne n'a compris. Ils ont pensé que je demandais. Ma question était pensez-vous libérer le Nigus ? Parce qu'à ce moment-là, Haïlé Sélassié avait été détrôné et enfermé par Mengistu, qui était le leader de la junte militaire qui l'a renversé. Et donc, tout le monde a compris que je demandais est-ce que vous pensez libérer les nègres ? Et donc, il y a eu une espèce de flottement. D'autant plus qu'il y avait sans doute des gens des Black Panthers anglais dans la salle.
Bonne ambiance d'ordre.
Et puis bon, il a répondu un truc qui était un peu sinueux, où il disait non mais moi les couleurs, ça n'a pas d'importance pour moi. Donc c'est parti sur ce malentendu. Dieu merci, après j'ai eu la possibilité de le voir, de le rencontrer en tête à tête à maintes reprises, jusque pratiquement un an avant sa mort, puisque j'étais à Kingston en 1980, en mai, je m'en souviens encore, où je l'ai interviewé pour la dernière fois dans ses bureaux du 56 Hope Road.
En 75, vous écriviez pour quel journal ?
J'écrivais pour un mensuel de musique, surtout rock, qui s'appelait Best, voilà, qui a disparu 20 ans.
Et donc c'est Best qui vous a envoyé à Londres, au Lyceum, pour aller voir Marley. Quand vous avez vu Marley sur scène, quelle a été votre première impression ? Vous saviez déjà ? Vous aviez entendu beaucoup ? Ou ça a été la claque ?
Oui, c'était une claque, évidemment. C'est la première fois, en plus dans une petite salle comme ça. Après, je ne l'ai vu sur scène que dans des contextes de masse. La dernière fois étant au Bourget, devant, plus de 50 ou 60 000 personnes, donc ça n'avait plus rien à voir. Là, j'étais dans une salle qui est à peu près la taille de l'Olympia à Paris, et évidemment, ça a été une claque énorme. Maintenant, moi, j'étais un peu préparé dans la mesure où moi, j'étais déjà dans le reggae depuis 2-3 ans. C'est-à-dire, quand Catch a Fire est sorti, et que j'avais trouvé cet album avec cette pochette incroyable qui s'ouvrait comme un zippo, comme un briquet, puisque en l'occurrence ça représentait un briquet. J'avais écouté ça la première fois chez moi, dans ma petite chambre d'étudiant. Tout était complètement déstabilisant pour moi, ce rythme incroyable, à la fois cette lenteur et cette dynamique à l'intérieur de... Ce que je dis d'ailleurs dans la préface, c'est que, après j'ai beaucoup réfléchi, évidemment ça fait plus de 40 ans que je travaille sur le sujet et que je continue à creuser le truc, et c'est ce que je dis, je pense que le reggae a cette particularité, cette valeur particulière, c'est une forme de réappropriation du temps au profit de gens à qui on l'a volé. Ça a été le temps de l'esclavage, le temps de la rupture avec l'Afrique, enfin tout ce qui a été, toute cette violence qui leur a été imposée, ils en font quelque chose, voilà, ils récupèrent cette lenteur et ce côté enraciné qu'ils ont finalement perdu à travers la transhumance et la traite négrière. Je pense que là, il y a un fondement quasi ethno-philosophique et ethno-musicologique aussi.
Les héritiers, alors évidemment, il y en a. Je ne parle pas du reggae qui est devenu un style international. Chaque pays a son groupe de reggae qui véhicule message ou pas. Mais il y a aussi les héritiers de sang et le petit-fils, Skip Marley, qui maintenant est dans la place.
Now greetings to the world, voice to the one called Skip Marley. Alongside the lion in the jungle, Big Gangzilla, the youngest uncle.
I know you're drunk in power, brother, that's not juice. I see you chasing meals, my brother, that's not food. When the banana peels, I tell you that's not fruit. Another brother shot down, but that's not news. Don't you fall from grace, brother, don't throw it all away. A wise man used to say, money ain't life, so take it easy.
Damn it, that's not true.
That's Not True, c'est signé Skip Marley, c'est sorti cette année en 2019. Alors il y a tonton Damian Marley dessus. Skip Marley, c'est le fils de Cédella, donc c'est le petit-fils de Bob Marley. C'est important pour vous de parler d'héritier, de parler de ce qui se fait dans la dynastie Marley, qui a été, j'allais dire, bouleversé par des histoires d'héritage épouvantables.
Oui.
Oui, off. Ouais. Si, vous en parlez un peu à la fin de votre livre, Bob Marley, le dernier prophète, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Mais...
C'est difficile d'éviter, effectivement, le sujet, mais c'est vraiment pas le cœur du... Enfin, c'est pas le sujet principal, évidemment. Non, musicalement, effectivement, il y a une continuité. Là, il se trouve que ce morceau, Skip Marley, donc, qui est le petit-fils de Bob, a été co-écrit et sur lequel intervient Damian Marley, qui est lui son oncle. Donc là, on en est à la troisième génération. Troisième génération de Marley. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est Skip Marley. D'abord, son prénom.
Skip James.
C'est Skip. Skip, en fait, c'était le surnom qu'on avait donné à Bob Marley. Parce que c'était le diminutif de skipper, donc le capitaine, et c'est lui qui emmenait, qui dirigeait la barque, voilà, ou l'arche, puisque en l'occurrence là on était de l'ordre mystique, on était là carrément dans la symbolique biblique, donc c'est lui qui menait l'arche, et donc tout le monde l'appelait Skip. Donc le petit-fils a récupéré, où sa mère lui a attribué ce surnom. Maintenant, il est effectivement le fils de Cédella Marley, mais son vrai nom, c'est Minto, puisque son père s'appelle David Minto. Donc, c'est une manière d'appropriation de ce qui est de l'ordre d'une marque. Aujourd'hui, Marley, c'est une marque. Cédella, d'ailleurs, a été l'une des premières à exploiter cette marque. Elle en a fait une ligne de vêtements. Elle en a fait... Enfin, voilà, elle a aussi exploité... Enfin, je crois qu'elle est à l'origine aussi de ce qui a été le commerce de papier à rouler, de tabac, de... Enfin, bon, voilà, il y a une déclinaison assez vertigineuse de la marque Marley. Même si, bon, le Skip, en l'occurrence, il a fait de la pub pour Gap. Donc, voilà, on est quand même dans une autre phase. C'est plus du tout... On n'est plus dans le messianisme tel que... Là, on est d'une génération qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre-à-terre. Et voilà, c'est... maintenant, voilà, je ne porte pas de jugement sur la musique. Moi, c'est pas trop ma génération, mais il existe comme ont existé tous les fils reconnus ou non, d'ailleurs, de la famille Marley.
Vous avez décidé de terminer cette programmation avec un titre de Lynton Kwesi Johnson. Le titre, c'est Reality Poem. C'est extrait de Forces of Victory. C'est sorti en 79. Pourquoi ?
Alors, cette chanson, elle est un peu, j'allais dire, elle n'est pas polémique, mais elle avait un peu troublé à l'époque, dans la mesure où, clairement, le texte de Reality Poem, donc, est sur le deuxième album du dub poète Lynton Kwesi Johnson, qui est à l'origine quelqu'un qui est né dans la province de Clarendon, en Jamaïque, mais qui a émigré en Angleterre à l'âge de 12 ans, je crois. Cette chanson parle finalement de ce qu'était le combat des anglo-jamaïcains, mais plus généralement enfin de toute cette de toute la diaspora, finalement de toute la diaspora noire. Et ce qu'il faut dire, c'est que Lyndon Kwesi Johnson a eu une démarche à la fois artistique et politique un peu divergente, un peu différente de celle de Bob Marley. Il a été assez rapidement confronté à des textes et à des leaders politiques en Angleterre, des syndicaux, des leaders de partis, etc., dont le Black Panther Party anglais, chose que Marley ne connaissait absolument pas. Bob Marley, il s'inscrit dans une, évidemment, dans une pensée totalement imprégnée de religion. Son texte de base, c'est la Bible. Là où Lyndon Kwesi Johnson, lui, se détache complètement de ça et se rapproche beaucoup plus d'une pensée politique à telle qu'elle on la connaît à travers les écrits d'une Angela Davis ou d'auteurs francophones tels que Frantz Fanon, voilà, des gens comme ça, c'est-à-dire que des gens qui prennent non pas pour horizon l'Éthiopie, mais qui veulent absolument changer les choses et leurs conditions de vie à partir d'un combat sur le terrain même. Et cette chanson parle véritablement de ça. Elle parle, à un moment, elle dit, voilà, il y a des gens qui se tournent vers l'Antiquité, qui se tournent vers, voilà, qui prônent, enfin, pour qui la religion est véritablement le salut, alors que, voilà, notre combat, notre mission, c'est de changer la réalité à travers une lutte au jour le jour et une lutte du quotidien avec les armes politiques que nous offrent les démocraties occidentales.
Nous, être limités à l'esprit infini, sommes uniquement nés pour la joie et pour la souffrance. Et l'on pourrait presque dire que les plus éminents d'entre nous s'emparent de la joie par la souffrance. Vous ouvrez ce livre sur Bob Marley avec une citation de Ludwig van Beethoven.
Quand j'ai lu cette citation, c'est cet extrait d'une lettre que Beethoven envoie
à Maria
von Erdödy en 1815 de Berlin. Moi qui suis un passionné de musique et pas seulement de reggae, hein, j'écoute aussi bien du classique, du jazz, du rock, que du rhythm and blues et de la musique africaine, qui a été longtemps aussi une de mes passions. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, voilà, ça pourrait matcher totalement avec la pensée de Marley, qui est une pensée universaliste, et ça s'adresse absolument à tous les musiciens, à tous ceux qui ont pour mission, effectivement, de chercher ce point le plus profond de l'âme humaine et arriver à en tirer quelque chose. Et souvent, ça passe effectivement. Ceux qui arrivent véritablement à tirer quelque chose d'extrêmement profond d'eux-mêmes et d'en faire des harmonies, voilà, sont souvent des gens qui sont passés par des phases de souffrance intense, ce qu'a connu Bob Marley dans sa jeunesse.
Bob Marley, le dernier prophète, c'est signé Francis Dordogne. Merci Francis.
Merci à vous.
This is the edge of reality. But somehow we a deal with mythology. This is the age of science and technology. But somehow we a check the antiquity. But when we can't face reality, we let go with clarity. And some latch on to vanity. And some whole insanity. And some get vision. And start preach religion. But them can't make decision when it comes to a fight. Them can't make decision when it comes.
C'est sur le dub de Lyndon Kwesi Johnson que l'on quitte Francis Dordogne et son livre Bob Marley, le dernier prophète. Karim Sanou est un enfant de Bob Marley, même si sa référence, son père spirituel, serait plutôt Tikken Jah Fakoly. Sous le nom de Jakassa, Karim fait du reggae sans reggae. Le nouvel album s'intitule Neshikora. Le groupe est prêt, on écoute, on parle après. Jakassa dans la session live.
J'ai quitté mon pays, Moi qu'il tu m'as suivi quand j'ai quitté mon village. Son esprit m'a suivi quand j'ai quitté mes amis. Mes amis m'ont béni. Burkina me suit. Ma tradition m'accompagne.
Partout je voyage.
Face aux Dafani me suit. Partout je m'en vais. Son esprit m'a suivi quand j'ai quitté mes amis. Mes amis m'ont béni. Burkina me suit. Ma tradition m'accompagne. Face aux Dafani me suit. Burkina me suit.
Partout je m'en vais.
Ma tradition m'accompagne.
Partout je voyage.
Face aux Dafani me suit. Partout je m'en vais. Génération, le fruit de cette belle révolution. Autrefois relégué au second plan, aujourd'hui le Burkina est au soleil levant. C'est fini les blancs et nos joues, partout on nous acclame. Le pays de Thomas Sankara devenu référence pour les Africains. Burkina Belle te son Nyandoyama.
Ça sur RFI.
Music du monde. La session live.
Ma tradition avec Karim Sanou au chant, Kevin Wempanga Ouedraogo à la batterie, Jonathan Tapsoba à la guitare, Piquet de basse à la basse et Sanou Niani au balafon. Il y a aussi un autre balafoniste, Issou Dembélé, mais qui n'était pas sur ce morceau. Bonjour Karim, je vous appelle Jackassa, Jackass, Karim Sanou, qu'est-ce que vous préférez ?
Karim en pays, voilà.
Karim, d'accord.
Voilà, parce que j'aimerais que quand on dit Jackassa, qu'on voit l'image du balafon reggae.
Balafon reggae, c'est le style que vous avez imposé parce qu'il y a du balafon et vous faites du reggae. Donc vous avez donné un nom assez simple pour qu'on retienne un peu l'idée. C'est-à-dire que vous avez un pied dans le mandingue et un pied dans le reggae. Est-ce que le premier reggae band que vous avez écouté comme tout le monde, c'était Bob Marley ? Ou vous aviez déjà des artistes du continent africain qui vous ont imprimé davantage ?
Oui, bien sûr, on a entendu les chansons de Bob Marley et tout, mais on ne savait pas faire la différence entre le reggae et autre musique. Donc, comme tout le monde, on a entendu les chansons de Bob Marley. Et c'est vraiment quand on a entendu du reggae où il y avait un message qui parlait des griots, un message qui défendait les griots comme Tikenja l'a fait, c'est là qu'on s'est rendu compte de la différence, des différents styles de musique.
Bob Marley n'était pas un griot et il ne portait pas de message.
Bien sûr, il portait un message, mais vous savez, Bob Marley, c'est un métis qui a fait danser...
C'est un
danser.
Colon et puis une petite paysanne un peu plus foncée, et paf, un métis, qui devient l'emblème du reggae à travers
voilà,
la planète.
Et c'est quelqu'un qui nous a fait danser, même si on ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est en anglais, mais ça nous a fait danser. Mais Tikenja, quand j'ai découvert personnellement, c'était quand je l'ai vu défendre des griots et les cultivateurs, et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé sur le reggae, et ce qui va m'amener à découvrir maintenant Alpha Blondie, effectivement, même si je connaissais aussi, et plein d'autres reggae-man.
Est-ce que pour vous, le reggae peut être encore la voie de la contestation, alors soit en Afrique ou ailleurs, ou alors la contestation est passée chez les rappeurs ?
Oui, bien sûr, parce que le reggae, il rejoint le griotisme qui existe avant le journalisme et tout, et il rejoint beaucoup de pratiques africaines qui n'avait aucun lien. Le reggae, pour moi, c'est une musique qui prône les mêmes valeurs que le griotisme, qui est une pratique à la base d'informer, d'éveiller, de prévenir et tout. Donc c'est dans ce sens que vraiment, pour moi, j'avais pas de problème d'amener mon griotisme vers le reggae.
Bah, un griot servait de médiateur entre le peuple
et
on
les
va
rois
dire,
à l'époque.
Les rois, ouais.
Voilà.
Aujourd'hui, quelle est la fonction du griot, enfin en tout cas celui qui fait de la musique, parce que tous les griots ne sont pas musiciens.
Oui, bien sûr, tous les griots ne sont pas musiciens, et comme vous le savez, aujourd'hui nous avons aussi beaucoup de musiciens, beaucoup de gens rentrent dans la musique, beaucoup de gens rentrent dans l'art, c'est tout à fait normal, mais sur ce côté, les griots aussi, ils essayent de faire valoriser, d'amener une autre forme de griotisme qu'il faut que cela puisse être valorisé à sa juste valeur avec l'actualité qui existe aujourd'hui, et c'est ce que nous défendons actuellement.
Karim, vous êtes originaire du Burkina Faso, alors c'est un pays que l'on connaît aussi par le prisme du FESPACO, qui est un festival de cinéma tous les deux ans, sauf erreur. Donc c'est une terre de cinéma. Burkina Faso, c'est aussi la terre des hommes intègres. Oui. Pour vous, le Burkina Faso, c'est plutôt Thomas Sankara, toujours dans l'esprit ?
Pour moi, oui, dans l'esprit, parce que il fait partie de ceux-là qui ont donné une valeur au Burkina Faso et qui a donné un espoir à une jeunesse. Comme le disait lui-même, tuer Sankara, des milieux de Sankara naîtront demain. Et c'est ce que nous avons pu constater en 2015 avec le changement de...
Le ballet citoyen,
voilà,
avec Smokey.
Voilà, le ballet citoyen avec Smokey, avec Sams Kaluja, avec beaucoup de grands frères.
Ouaga un peu bougé.
Voilà, qui ont montré que même si aujourd'hui les ennemis du Burkina Faso essayent de faire oublier ces côtés à travers ce qui se passe actuellement, mais on sait que le Burkina Faso, la jeunesse, met en garde les futurs dirigeants.
Il n'y a pas très longtemps, on recevait Cheikh Nkouti à votre place, donc le fils de Fela, artiste, Nigeria, politique. Lui, c'est un panafricaniste, donc lui, il croit en l'unité de l'Afrique et aussi de sa diaspora, qui doit être une aide, un véritable levier. Il nous disait qu'à l'école, on ne lui avait jamais parlé de Thomas Sankara, on ne lui a jamais parlé de Patrice Lumumba, on ne lui a jamais parlé de Nkrumah. Vous, qu'est-ce que vous avez appris à l'école ?
À l'école, l'école, effectivement, vous savez, quand on va à l'école, c'est pour apprendre le français. C'est pour apprendre le français et tout ce qui se trouve dans les livres, c'est le petit déjeuner à la française. Excusez-moi du terme. Voilà, c'est tout ce qui va nous donner envie d'être, de connaître la France. C'est ce que nous apprenons à l'école, bien sûr. Ils parlent, ils vont parler des martyrs africains, mais juste un peu de passage. Ce n'est pas à l'école qu'on va apprendre à les connaître.
Donc l'éducation, c'est important.
Oui, l'éducation est très, très importante.
Non, mais pour apprendre aussi qui sont les valeurs et les figures de l'Afrique, pas de ce qui reste de la décolonisation. Il faut passer à autre chose.
Bien sûr, il faut passer à autre chose, mais ce que je voulais dire, à l'école, effectivement, on prend plus de temps à apprendre l'histoire des Blancs que s'enrichir du passé.
Bien sûr.
Et de ceux qui ont combattu, ceux qui se sont sacrifiés, on apprend moins à les connaître. Et effectivement, c'est en quittant le continent ou bien en bougeant que, au fur et à mesure, on voit « Ah, il paraît que... » Dans notre pays, Thomas Sankara, dehors on le respecte, dehors on le respecte, et alors que dans le Burkina elle-même, ils ont toujours tout fait pour essayer d'empêcher à la jeunesse de savoir la vérité.
Je vous propose d'écouter un extrait de ce nouvel album. J'ai choisi le titre qui parle de la parenté à plaisanterie, parce qu'il y a, je suppose, pas mal de gens qui savent pas ce que c'est, on va pouvoir en parler, ça s'appelle Rakiré. C'était le titre Rakiré de Jekyasa, cet extrait du tout nouvel album Nechikora. Ouais. Vous vivez en France depuis 2010-2011?
Voilà, depuis 2011-2010.
Vous êtes arrivé dans un des pays qui a créé le franc CFA.
Ah oui,
ça
c'est
va?
C'est normal.
Il n'y a pas de blessés. Les gens étaient gentils avec vous?
Ah, bien sûr, bien sûr.
À peu près.
Comme partout, on a rencontré les bonnes personnes comme les mauvaises personnes, comme partout.
Voilà. Et vous, ça s'est passé du côté de Lyon? Vous avez rencontré des gens là-bas?
Voilà,
qui...
du côté de Lyon. J'ai été invité par des amis en 2007.
Ouais.
Et suite à ça, je suis revenu en 2008-2009. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé pour faire mes premières maquettes ici en France. Et donc, c'est comme ça qu'en 2011, je me suis installé.
Vous vivez à Lyon ou à Paris?
Oui, toujours Lyon.
Toujours Lyon.
Lyon, voilà. J'ai été soutenu par des artistes comme le groupe Antiquartz à Lyon,
ouais,
qui m'a aidé à réaliser la première chanson qui s'appelle Sababou. Et suite à cette chanson Sababou, un producteur burkinabé, Das Promon Dadas, qui
Oula.
M'a aidé à financer les clips. Et donc, c'est grâce à cette chanson déjà que tout est parti au niveau de la musique moderne pour moi.
D'accord.
Parce que pendant toute mon enfance, c'était la musique traditionnelle, 100% traditionnelle.
Qui vous a appris le balafon?
Les balafons, je l'ai appris dans la famille, autour, avec les,
père,
les tontons,
oncle,
les oncles, ouais, les grands-parents. Voilà, c'est vraiment la famille qui l'a appris.
Et c'est de la tradition orale, c'est-à-dire qu'on se passe ça de père en fils ou d'oncle en neveu. Vous avez des partitions ou pas du tout? Il y a une notation?
Non, il n'y a pas de partition. Il n'y a pas de partition. C'est à force d'écouter. Puisque dans la famille, et notre quotidien, c'est vraiment que ça. Notre quotidien, c'est la musique, c'est le balafon, c'est les autres instruments et le griotisme.
Et alors, ça vous fait quoi de vivre à Babylone?
Eh, Babylone, c'est...
Parce que c'est un peu ici,
en fait,
quand même.
En fait, nous, on n'est pas...
Ça
nous,
va
on est, comme j'ai dit, nous, on est des griots.
Ouais.
On respecte le rastafarisme parce que c'est... Comment dire? Pour moi, c'est un peu proche de la réalité de l'homme noir. Tu vois? Mais pour moi, Babylone, ce n'est pas l'Occident. Babylone, c'est dans la tête.
Ah, c'est intelligent.
Babylone, oui. Babylone, oui. C'est dans la tête. Babylone, c'est celui qui a des idées bizarres. C'est celui qui ne comprend rien. Donc,
vive l'écologie intérieure. On va terminer cette émission avec cette fameuse chanson sur le franc CFA que, évidemment, vous ne défendez pas.
On chante dans cet album contre le franc CFA. Mais si vous remarquez bien, le refrain, c'est « On est fatigué de ce système. On en a marre de ce système. » En fait, on a... Et même même si le franc CFA et ses chances aujourd'hui, c'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à chanter, puisque nous, le but, c'est de faire évoluer le système, de changer le système du franc CFA, trouver des solutions pour la jeunesse africaine pour qu'elle puisse voyager avec plaisir et non par obligation. Et c'est tous ces messages que nous défendons. Donc, le système du franc CFA, c'est pas elle-même, c'est ce qui prend les décisions, c'est ce qui approfondissent la pauvreté en Afrique.
J'espère que vous aurez été entendu, Karim Sanou. Karim Sanou, vous allez retourner vers vos musiciens. Merci infiniment, Karim. Et vous revenez bientôt, j'espère. Et
bien sûr. Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Je vous en prie.
Merci à toute l'équipe.
Fatigué. Réjoignons-nous pour chanter ce refrain.
De ce système importé de Babylone. Libérez ma nation.
Tchao.
Jacques Assa, Francis Dordor étaient nos invités aujourd'hui dans ces musiques du monde. À samedi prochain, portez-vous bien. Merci.